Mais on est toujours à l'heure.
Faire 19h19.
Il est toujours 19h19 ici.
Le temps s'arrête.
Bon, alors, écoutez, messieurs, dames, merci beaucoup. On est content de vous accueillir ici dans ce lieu qui s'appelle le Récantou. C'est un lieu qui est une coopérative composée d'une association qui s'appelle l'Après. Et c'est elle qui s'occupe de la partie culturelle de ce lieu. Le Récantou qui est fourni de produits des paysans eux-mêmes. Et puis de la librairie Floury qui a un petit coin aussi avec des livres. Voilà. Donc cette coopérative, ma foi, elle a une vocation, bien sûr, de distribuer des produits culturels, mais aussi de distribuer des produits culturels. Culture et culture, c'est un peu ça notre truc, quoi. Hein, d'accord. Voilà. Alors, les soirées, ma foi, il y en a pour l'instant une par mois. C'est déjà beaucoup, mais c'est pas assez, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, à l'évidence. Pendant cette soirée, ou après, on pourra, si vous le voulez, grignoter un petit bout et boire du vin blanc et rouge tout à l'heure, à la suite de cette mise en bouche que vous allez nous préparer. Et voilà, le verre de vin est à 2 euros, le petit grignotage est offert par l'association L'Après, qui vit avec des bouts de ficelle, mais nous on adore les bouts de ficelle. Voilà. Alors, c'est Daniel qui a eu l'idée d'inviter et d'aborder ce thème de la Colombie.
Oui. Moi, en fait, j'habite à côté. Donc, je viens acheter des produits ici au Récantou depuis le début. Et je suis beaucoup venue aux soirées culturelles. Il ne l'a pas dit par modestie, mais les premières années, il y avait une soirée par semaine. Et après, il y a eu un petit peu de fatigue. Et c'est cette année qu'on a repris un petit peu le flambeau et recommencé le système. Donc, comme il dit, une soirée par mois. Alors, si vous voulez nous rejoindre avec des idées, ou même pas d'idées, pour être là et écouter, participer, vous êtes vraiment les bienvenus. D'ailleurs, il y avait une feuille non, qui passait pour pouvoir noter le... Voilà. Alors, moi, j'ai rencontré Liliane et Claude à la Ligue des droits de l'homme, il y a déjà plusieurs années. On a bien sympathisé tout de suite. Et ils sont allés, je crois que c'était dans 6 ans,
2012-2013.
Ils sont allés passer 6 mois en Amérique du Sud. Ils ont visité plusieurs pays, dont la Colombie, parce que vous aviez notamment des contacts là-bas, et des amis de Bogota qui les ont emmenés tout à fait au nord de la Colombie, dans cette presqu'île qui est ici, entre les deux mers. Hein,
l'Amérique centrale, partant de ce côté-là.
Et ils ont rencontré ce peuple qui s'appelle les Wayuu, W-A-Y-2-U. Et bon, j'ai compris qu'ils avaient été très sensibilisés aux conditions de vie des Wayuu, à la façon dont ils étaient traités, ou plutôt maltraités par l'État colombien. Donc ils vont vous expliquer beaucoup de choses sur les Wayuu, parce qu'il faut un peu les approcher pour comprendre leur démarche et pourquoi ils ont voulu absolument agir. Mais agir, bon, je crois qu'on est tous, nous, dans des associations, dans l'ensemble, la plupart des gens sont comme, impliqués dans des associations. Pour Claude et Liliane, c'était au-delà de participer, peut-être en envoyant de l'argent, ou même en donnant du temps. Eux, ils ont carrément passé 6 mois, 2 fois déjà, là-bas.
3 fois.
3 fois même. Et donc, ils ont pu voir concrètement, vraiment, quels étaient les besoins de ces populations.
C'est quoi, 300 000 habitants? Les Wayuu sont 500 000, il y en a 400 000 sur la Colombie et 100 000 sur le Venezuela. C'est la plus grande communauté ethnique de l'Amérique du Sud.
Alors, non, c'est la Colombie.
De la Colombie. L'association qu'ils ont créée s'appelle Créa Rescuela, qui veut dire, moi j'entends créer école, mais pour eux c'est faire école, c'est-à-dire que l'objectif est bien au-delà du soutien à l'école, bien que l'association ait commencé par une aide directe à l'école. Donc ils vont vous expliquer tout ça avec des photos, notamment Liliane prend de très très belles photos, il y a déjà des expositions à Toulouse. Ils vous diront que le 9 octobre on fait une opération assez importante pour nous, aussi à l'espace diversité à partir de la mairie, hein, ou d'Aubisson. Donc là, on va vous donner quelques détails. Et puis, comme ça, s'impliquer de cette façon-là, ça entraîne des questions, hein, finalement. Parce que combien de temps on va faire ça, avec qui, quels sont les partenariats. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aborder aussi cette chose-là. Donc, vous posez toutes vos questions, on est entre nous, on n'est pas nombreux. Là, c'est quand même très, très, très facile. Voilà.
Merci Daniel. Puis Daniel fait partie de l'association Créer un Rescola
Faire École. Mais comment résister ?
D'ailleurs, nous sommes quelques-uns ce soir.
Vous allez voir.
Peut-être ça, pour encore repréciser le thème de la soirée. C'est bien sûr la Guarira, ceux qui l'habitent. Il n'y a pas que les Wayou, il y a 1 200 000 habitants sur ce territoire de deux tiers. Qui représente à peu près les deux tiers de la Bretagne, donc 400 000 Wayou, un peu plus en ce moment, parce qu'il y a des Wayou du Venezuela qui migrent dans la Colombie, compte tenu de la situation très compliquée qui se passe en ce moment au Venezuela. Et donc, en gros, il y a aussi 600 000, ce qu'on appelle des Colombiens, c'est-à-dire en fait, parce que les Wayou se disent d'abord Wayou. Donc 600 000 Colombiens et un petit peu d'Afro-Colombiens aussi, comme sur toutes les côtes, comme sur la côte pacifique, de l'autre côté de la Colombie. Donc oui, pour revenir quand même à un angle particulier de cette soirée, nous ce qu'on avait en deux temps. Dans un premier temps, on va parler ensemble de la Guarira et de ce qui s'y passe. Oui, ce département. Et puis dans un deuxième temps de la soirée, on aimerait aborder, en fait, quand on revient en France, on se retrouve pendant plusieurs semaines assez en décalage, pas très bien. Parce qu'on porte des choses de là-bas, on a du mal à retrouver ici, et on a du mal à parler de là-bas. Et donc on abordera cette question qui est, à mon avis, qu'on aborde rarement dans la solidarité internationale, comme on dit, hein. Parce que faut dire que ça se passe bien à chaque fois, plutôt bien. Alors qu'en fait, c'est pas évident du tout. Et puis on vous parlera aussi ensemble de à quel moment mettre un point final. Voilà.
On ne fait pas sur l'association.
Oui, elle a tout dit.
Non, donc on va directement faire, voilà.
Donc, on va vous présenter une série de photos, d'images, dont certaines sont très anciennes. Les noirs et blancs datent du début du XXe siècle, sur la Guaira et sur les Wayou. Et donc, voilà, pour que vous imprégniez de tout ce que vous allez voir, et ensuite, on a un petit temps, voir ce que ça suscite chez vous.
Oui, c'est un peu comme un patchwork d'images. Laissez-vous impressionner. Non, je pense pas.
Non, tu ne bouges pas.
Non, je ne dérange pas. Je le saurais si tu veux. Voilà. Voilà. Alors, on peut revenir sur telle ou telle photo sans problème. Pour la revoir si...
Ah oui.
Voilà, c'est vraiment un patchwork. Hein, qui n'a pas non plus la volonté de présenter toute la Guarira. C'est très subjectif.
La dernière photo, par exemple, c'est
la dernière photo, c'est la Yona, c'est la danse, c'est une danse typique des Wayou, c'est la danse à chaque fois qu'il y a une cérémonie, un événement, les jeunes filles et les jeunes garçons dansent ce qu'ils appellent la Yona. Donc là, on avait, en l'honneur de l'inauguration de l'école que l'on avait aidé à remettre en état, ils ont fait la danse.
C'est une danse assez complexe, mais qui emprunte toujours le même circuit. C'est-à-dire que les jeunes filles à partir de 12 ans, hein, c'est-à-dire en fait prépubère, pubère, se revêtent de ces grandes mantas comme des oiseaux. Et elles dansent en file, en queue leu-leu. Et elles avancent à quand ils partent, extrêmement rapides, comme des petits oiseaux, comme les petits oiseaux qu'on voit dans le désert. Et le garçon court à reculons devant elle, devant la première, et l'enjeu est de faire tomber le garçon. De le faire tomber en arrière, de déséquilibre.
Elle ne l'épousera pas.
Voilà. Et si le garçon arrive à résister, il y aura peut-être épousable. C'est pas une obligation.
Après, il y a d'autres qui se confrontent.
C'est pas une obligation. Et c'est une danse qui a été instituée, c'est vraiment... C'est une société matrilinéaire, pas matriarcale, matrilinéaire, c'est-à-dire le nom est transmis par la mère et les biens sont les biens de la de l'habitat, pas les biens troupeaux et barques de pêche, pas les biens de production. Et les biens familiaux sont transmis par la mère. Et c'est une danse pour assurer le pouvoir des femmes sur l'homme, sachant que les hommes là-bas sont extrêmement machos. Pardon ?
Vous avez des vidéos de cette danse ?
Non, on n'a pas des vidéos.
Si, on en a, mais c'est celle qu'on a prise à l'université.
Ah oui, on ne les a pas là.
Enfin, on en a, si je peux vous en envoyer, c'est un mail.
Oui, sur le mail, on peut les envoyer. Ouais. Et c'est accompagné seulement d'un tambour à baguette, c'est-à-dire le tambour espagnol, en fait. Ils ont piqué ça aux Espagnols. À la conquête.
Il y a d'autres...
D'autres photos qui
d'autres
vous ont...
D'autres photos dont vous voulez parler, qui vous ont frappé?
Il y a quand même un problème avec l'eau.
Ah, bravo.
Il y a un problème avec l'eau.
T'as raison.
Ça a l'air d'être un boulot à plein temps.
Pour les femmes, oui. C'est un boulot prenant. De quelques heures par jour. Oui, ah, c'est un désert, ou un semi-désert, la Guarina. Pour revoir la... Tu peux remettre la carte. La carte du début. La carte va nous éclairer un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est cette petite partie ici.
L'extrémité, là.
L'extrémité.
L'extrême pointe nord de l'Amérique du Sud.
Ici, il y a une montagne qui monte à 5700 mètres et qui plonge directement dans la mer. C'est le seul endroit au monde où c'est comme ça. C'est-à-dire une telle hauteur de dénivelé. Et puis après cette montagne, eh bien, il y a cette péninsule qui est dans cette partie-là, dans la première partie, non, ici, en bordure de la montagne, c'est des terres riches, parce qu'il y a de l'eau. L'eau qui dévale de la montagne. Mais c'est une bordure très étroite. Toute cette partie-là, c'est du semi-désert, c'est-à-dire une végétation d'arbustes épineux.
Hein, c'est reverdi à la saison des pluies.
Voilà. Et qu'elle devient verte pendant 3 semaines, puis après, hop, ça replonge dans la grande sécheresse. Et tout le nord, c'est réellement un désert. C'est-à-dire avec des endroits où il n'y a même plus de végétation du tout. Donc, là, il y a un grave problème d'eau. Et alors, qui s'accentue, évidemment.
D'autant plus.
Il y a un seul rio qui coule toute l'année, c'est le rio Rancheria, ici, qui descend de la montagne, effectivement, et qui vient se jeter là,
voilà.
À la capitale.
Et en rouge, ici, vous avez ce qui s'appelle la mine Cerrejón, qui est la mine de charbon à ciel ouvert la plus grande du monde, qui s'étend sur plusieurs kilomètres carrés et qui assèche et contamine les quelques cours d'eau de la péninsule et les nappes phréatiques. D'où ça accentue le problème de l'eau. Avec le réchauffement climatique en plus.
Et il a trouvé la fourmilière de. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir des citernes des...
Pardon ?
L'eau.
Oui.
D'où elle vient en fait ?
Ben, l'eau, elle vient de la montagne. C'est-à-dire qu'il y a une.
Il la transporte ?
Elle viendrait de la montagne. Elle descend de la montagne, il y a des affluents.
Non, mais comment ils boivent ? Comment ils s'alimentent ?
Comment ils s'alimentent en eau ? Ils ont des puits avec des moulinos, là, pour.
dans beaucoup d'endroits, mais toutes les rancherias n'en ont pas, et celle où nous travaillons n'en a pas, parce qu'elle est en bord de mer et qu'on a l'eau salée à 5 mètres de profondeur. Et puis, normal, alors, sur ce rio, du temps des cartels et des paramilitaires, les bonnes terres ont été appropriées. Et ceux qui ont approprié ces bonnes terres, en chassant bien sûr les autochtones, ont fait construire un barrage qui alimente leurs cultures, qui sont des cultures industrielles, palmes, riz, etc. Et donc déjà, ça prive d'eau le rio, qui est le rio principal, qui est vraiment pour eux un endroit sacré. Et second problème, sous ce rio Rancheria, il y a un filon de charbon d'extrêmement bonne qualité. Et donc la mine Cerrejón, qui exploite le charbon depuis 30 ans, voudrait exploiter ce filon de charbon et donc veut déplacer leur rio sur une trentaine de
Ce qui va l'assécher encore plus.
Ce qui va détruire surtout tout le système hydrographique autour. Donc il y a des résistances importantes. Ils ont déjà, ils essaient déjà de commencer sur un affluent qui s'appelle le rio Bruno, un affluent du rio Rancheria. Actuellement, c'est arrêté pour 3 mois pour réexaminer les choses parce qu'il y a beaucoup d'oppositions qui se font, bien sûr. Voilà. Mais le problème de l'eau est très important parce que en 2015-2016, à cause du phénomène El Niño, le courant, il y a eu un El Niño très fort et il n'y a pas eu de pluie pendant quasiment 2 ans.
Donc
il y a une mortalité infantile importante pendant cette période-là. Sinon, nous, dans la rancheria où nous sommes, elle est proche de Riohacha, proche de la capitale, Riohacha, nous on est à peu près ici. Et normalement, c'est la ville de Riohacha qui alimente une citerne d'eau potable pour...
qui apporte, avec un camion-citerne, 10 000 litres d'eau par mois. Sachant que les 3 premiers mois de l'année, il n'y a pas de livraison, parce qu'il faut re-signer les contrats avec l'entreprise de livraison. Et ça bloque tout pendant 3 mois. Ça, c'est l'administration colombienne. Donc, en fait, il y a des livraisons 9 mois par an, tous les mois, 10 000 litres d'eau pour la rancheria où nous travaillons, où nous vivons. C'est 130 personnes. En gros, les Wayuu vivent avec 3 litres d'eau par jour, par personne.
Pour tout.
C'est-à-dire pour s'alimenter, boire, se laver, etc.
À Las Vegas, c'est 800 litres par personne.
Et en France, c'est 150
litres. 150 litres en France.
Alors, pour continuer là sur la question de l'eau hein, et son rapport à la géographie économique et sociale, il y a quatre villes dans ce territoire. Il y a la capitale du département qui s'appelle Riohacha, qui est au bord de la Caraïbe. Il y a Maicao, qui est à peu près par là.
Là, ici, Maicao.
Ah ben voilà, c'est là, ici, qui est à la frontière avec le Venezuela, qui est la ville de tous les dangers. C'est la pire ville, l'une des pires villes au monde. Parce que c'est la ville des contrebandes, des trafics, des règlements de compte et encore des cartels. On est obligé de temps en temps d'y vivre, mais c'est vraiment pas marrant. Et puis il y a Oriya, ici, qui est la ville des Wayuu, qui a été fondée sur une ancienne petite ville Wayuu par les jésuites qui ont réalisé avec les Wayuu une ville étonnante dans son architecture, dans sa conception. C'est comme une étoile. C'est assez joli. C'est vraiment la ville agréable, même si elle est presque dans le désert. Et puis, il y a une ville qui, malheureusement, est en très grande difficulté, elle aussi. C'est Manaoré, ici, au bord de la Caraïbe, qui est la plus petite ville. Et là, normalement, il y avait les récoltes de sel avec les salines. Et tout ça est en train de dégringoler. Et la ville s'appauvrit, est vraiment un appauvrissement important. Voilà. Et puis si. Alors là, il y a le coin touristique, là où vont tous les Occidentaux et les Américains, pour aller se baigner dans la mer et faire, comme vous avez vu tout à l'heure, de la planche avec, avec la voile. C'est un endroit merveilleux, là, très très beau, avec les rochers, les voilà. Et puis là, il y a...
il y a un microclimat très particulier, voilà. Avec ça s'appelle Nazareth.
Oui.
Et donc ici, on a des petites montagnes qui, par rapport à la platitude d'ici, semblent hautes. En fait, elles font 600-700 mètres de hauteur. Hein. Mais ça crée un microclimat parce que là, il y a les alizés qui soufflent comme ça. Il y a toujours du vent sur cette presqu'île. Et là, ça accroche les nuages et il y a un microclimat. Et c'est vraiment le lieu des voyous qui est vraiment encore très traditionnel. Et ils sont très, très attachés à leur tradition.
Toute cette pointe nord, c'est vraiment les espaces sacrés des voyous.
Voilà.
On va peut-être y revenir tout à l'heure. D'autres photos qui ont pu vous marquer? Oui.
Du col. Donc on voit, il y a une photo où on voit les enfants qui dessinent... sol,
oui.
Et on voit des enfants donc dans une classe en uniforme.
C'est ça, oui, l'uniforme bleu traditionnel des écoles colombiennes.
Et donc, voilà votre action, puisque vous nous appelez Créable Escola.
Ils sont au Père Village.
Qu'est maintenant ?
Alors, ce ne sont pas des
villages,
ce sont des rancherias. Une rancheria, c'est en général, il y a un couple fondateur, un couple de vieux, quoi. Donc il y a eu des enfants, donc les filles restent plutôt autour de la mer, enfin construisent leur maison autour, donc c'est un territoire où les gens sont liés par le sang et par les femmes, et les hommes viennent, qui les épousent viennent de rancheria autre, et traditionnellement ils pouvaient avoir une femme, un peu comme les marins, plusieurs femmes dans des rancherias différentes. Mais ça,
parce qu'ils sont semi-nomades,
parce qu'à l'origine ils étaient semi-nomades. Ça se perd de plus en plus. Donc, ils émigraient beaucoup vers la côte, vers le Venezuela. Et puis, quand la saison sèche s'accentuait, ils redescendaient justement sur le rio Rancheria. Et bon, ça a tendance à se perdre, hein, le nomadisme. Maintenant, les Rancherias, bon, il y a encore des troupeaux de vaches, mais il y en a beaucoup qui étaient mortes au moment de la grande sécheresse, là. Et ils ont des chèvres, ils ont des moutons, ils ont des porcs, des poules, des canards, enfin bon. Et tout ça vit en liberté dans la rancheria. Donc c'est une structure de lien en fait par le sang.
Et de petites dimensions.
Et là par exemple à la Cachacatres, il y a donc le groupe fondateur, ils ont eu 15 enfants, ils ont 58 petits-enfants. Bon, certains se sont installés, certaines filles se sont restées, d'autres ont émigré vers la ville, comme ça se passe beaucoup aussi. Donc, dans une rancheria, il y a l'autorité. Donc, l'autorité, là, c'est le plus ancien. Et joint à l'autorité, une personne qui est la leader et qui est chargée de tout ce qui est les relations avec l'administration, avec l'État colombien.
Parce qu'elle sait lire, écrire et elle maîtrise parfaitement l'espagnol.
Voilà.
Parce qu'ils ont leur propre langue, le Wayunaiki, une très vieille langue.
Voilà. Et donc dans cette école, nous quand on y allait la première fois, moi je suis allée voir l'école et là je suis ressortie un petit peu effondrée, il n'y avait pas un livre. Les enfants avaient seulement un petit cahier, un petit crayon papier et une gomme. La pédagogie, alors là n'en parlons pas, c'était... la catastrophe. Et bon, je suis sortie, j'étais un peu atterrée. Et Clarena, donc, qui vous allez voir là tout à l'heure, qui est la leader de cette rancheria, m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'école? Alors c'est comme ça que s'est créée l'association, en fait, de récolter des dons déjà en France pour pouvoir amener, alors là, quand on y est retourné, on a amené des livres, donc des albums de jeunesse, des livres, on a amené du matériel pour faire de la peinture, du dessin, parce qu'ils n'avaient jamais vu un peu de peinture ni un pinceau. On a acheté des livres aussi pour le professeur, ça avait changé de professeur, donc au niveau pédagogique c'était mieux. Et puis, parce qu'ils sont enseignés dans les deux langues, Wayunaki et espagnol. Donc l'enseignant est forcément un Wayu. Et puis on a amené aussi du matériel pour restaurer les locaux parce qu'il y avait deux salles, donc une seule salle était occupée. La salle d'à côté, les chèvres venaient régulièrement s'y installer.
Tous les jours.
Tous les jours, donc on a fait refaire l'électricité, faire des barrières autour des deux bâtiments de l'école, repeindre, enfin tout remettre en état, refaire, voilà. Et maintenant, il y a une deuxième classe qui s'est ouverte avec une ONG de là-bas, de la Colombie, pour les petits, l'équivalent de notre maternelle. Mais ils s'occupent des... Alors les mamans viennent, il y a tout un enseignement sur comment traiter les enfants, sur la nutrition, il y a des apports de nutrition. Donc, maintenant, il y a deux classes. Et après, quand ils vont au collège, ils vont à Rio Hacha. Alors ça, c'est un gros problème parce qu'il n'y a pas de transport public. Hein. Donc, c'est les parents qui sont obligés de payer des taxis pour les emmener. Et ça, ça pose des problèmes importants pour les collégiens et les lycéens et ceux qui vont à l'université. Il y en a quelques-uns qui vont à l'université.
Voilà. Le système scolaire en Colombie, comme dans d'autres pays de l'Amérique du Sud ou centrale, comme au Mexique par exemple, a été calqué sur le système scolaire français. C'est-à-dire que la France a été... jusqu'au milieu du XXe siècle, vraiment le référent des valeurs de progrès et de droits humains et d'éducation. Toute la bourgeoisie colombienne parlait le français couramment jusqu'aux années 50. C'est fini là. Et donc, on retrouve l'équivalent de les primaires, la classe primaire, pardon, le collège, le lycée, l'université. À cette différence près que chez les Wayuu, parce que l'enseignement n'existe que depuis 30 ans à peu près, l'ouverture à l'école, ils peuvent rentrer à l'école primaire à n'importe quel âge. Mais ils feront le cursus. C'est-à-dire qu'un enfant de 14 ans peut très bien se retrouver à l'équivalent du CP, chez nous, pour commencer à apprendre à lire et à écrire. Et ensuite, il fera le cursus comme tout enfant. Dans cette rancheria-là, où la valeur éducative est très très forte pour l'ensemble de la communauté, il n'y a pas de retard scolaire. C'est-à-dire qu'à peu près, tous les gamins commencent la primaire à 6 ans. Et, chose, c'est il y a 130 personnes, hein, donc à peu près 2/3 d'enfants sur les 130. Et chose étonnante pour les communautés Wayuu, il y en a 6 qui sont en secondaire et 4 qui sont en faculté. Ce qui est une réussite exemplaire.
Peut-être on va passer le... C'est à moi, ça. La vidéo de Carina.
Attends, peut-être d'autres photos qui vous ont marqué.
Le plastique dans les arbres.
Le plastique.
Ah ouais. Ouais, alors ça, c'est terrible.
Bon, déjà, mais c'est comme en Afrique du Nord. Hein.
Dans une rancheria, vous allez aux toilettes dans la nature. Alors je ne vous dis pas quand c'est la saison sèche, avec les épineux. Il n'y a aucun service sanitaire, il n'y a rien. Et traditionnellement, avant qu'il y ait les plastiques, dans leur culture, ça retournait au sol, ça se biodégradait tout seul, enfin, il n'y avait pas de souci. Depuis qu'il y a les plastiques, et alors dans les magasins, on vous en met, les plastiques volent partout. Alors Claude a eu l'initiative, une année, il a dit on va faire un grand ramassage. On va essayer d'assainir la zone. Parce que ça, autour de la rancheria, ça fait une espèce de zone comme ça, de barrière.
De couronne de plastique.
Voilà. Tout le monde s'y est mis, on a acheté des gants, les gamins étaient absolument.
Tout le monde était heureux de faire ça.
On a fait un grand trou, puis on a mis le feu. Et on a vu que la fumée était tellement toxique qu'il vaut mieux que ça reste dehors. On n'est pas les ramasser.
J'ai fait une grosse erreur.
C'était vraiment.
C'est vraiment l'occidental qui veut nettoyer. Quoi.
Qu'il soit propre.
Hein? Voilà. C'est
un exemple.
Il faut que ça soit propre. Ah oui. Et j'aimerais quand même qu'on prenne un tout petit moment, pas longtemps, pour parler de la cosmogonie. parce que ça va éclairer, enfin ça va permettre de donner des éléments pour la seconde partie de la soirée. La religion, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une religion, c'est l'animisme. L'animisme, c'est une forme de conscience spirituelle et de pensée qui considère que tous les éléments vivants et les éléments naturels sont habités par un esprit, sont habités par au moins un esprit, et que l'homme n'est pas au-dessus ni en dessous de chacun de ces éléments. Il en fait partie de manière intégrante. Il y a multiples échanges en permanence entre tous ces esprits, l'esprit des animaux, l'esprit des plantes, l'esprit de la terre, l'esprit de l'eau, du vent, c'était des nuages. Et donc ça donne une forme de pensée. Alors, les Occidentaux appellent ça, ils sont très écologistes. C'est pas vrai. C'est pas de l'écologie. C'est une forme de pensée où l'homme est l'un des éléments du cosmos. Les étoiles aussi, j'oubliais. Le soleil, la lune, les étoiles. L'un des éléments, et il n'y a pas de hiérarchie. Du coup, ça donne des très grandes difficultés entre les schémas de pensée occidentaux et les schémas de pensée autochtones. Parce qu'on arrive avec nos notions à nous, qui sont complètement différentes des leurs. Et ça pose pas mal de difficultés.
Alors, dans la société Wayuu, effectivement, les deux mondes sont imbriqués. La réalité, notre réalité perceptible, et puis la réalité du monde des esprits, et les choses sont imbriquées. Et il faut toujours qu'il y ait un équilibre des échanges. Alors, la pluie est masculine, c'est Julia. La pluie, elle féconde la terre, c'est l'élément masculin. La terre est l'élément féminin, mais très ambivalent, parce que certains endroits, des trous dans quelque part, là où il y a des serpents, là où il va y avoir des iguanes et tout, ils sont des lieux qui peuvent être maléfiques, où peut jaillir un esprit qui va vous flécher et vous rendre malade, voire vous tuer. Donc la terre, elle a ce côté très, très ambivalent. Voilà. Et ce qu'il faut dire dans la société Wayuu, c'est que les rêves sont prédictifs. Donc traditionnellement, on se raconte les rêves et éventuellement quelque chose qu'on avait prévu de faire, on va le modifier parce que dans le rêve, on a été averti qu'il y avait un danger. Et nous, on s'en est rendu compte à un moment, justement dans la danse Yona, à un moment dans la nuit, il y a un chien qui a mordu un des gamins et ils l'ont emmené à l'hôpital. Bon, bref, aux urgences, et nous on attendait aux urgences, et son père m'a dit, bah, tu vois, en fait, le grand-père avait eu un rêve comme quoi il y allait y avoir un grand malheur. Et donc, on a tué la chèvre, on a laissé le sang partir dans le sol, et finalement, tu vois, c'est un petit malheur, on va le désinfecter, puis il va guérir facilement. Et donc, les rêves sont extrêmement, extrêmement importants dans leur culture.
Et le centre de la communauté, c'est le cimetière. Il y a un rapport aux morts qui est extrêmement important. Et alors, il y a deux enterrements. Le premier enterrement qui suit directement la mort de la personne, tout le clan qui est disséminé dans plusieurs rancherias, certaines distantes de plusieurs centaines de kilomètres. Tout le monde converge jusqu'au cimetière. Ça donne une grande cérémonie avec beaucoup de chèvres tuées, beaucoup d'alcool bu. On enterre le mort, on tire des coups de pistolet en l'air pour chasser les mauvais esprits et on le met dans un caveau. À un moment, vous avez peut-être vu une photo où il y a un homme qui est assis sur une tombe blanche. Et puis, voilà, ça c'est le premier enterrement. Et puis, 4, 5, 6 ans, 7 ans après, on déterre les ossements du mort, on retire les ossements du tombeau, une femme qui est spécialement chargée de ça nettoie les os, met les os dans une urne ou un grand sac, et quelqu'un de la communauté va porter l'urne ou le sac tout au nord, là-haut, dans un endroit qui est sacré pour les Wayuu, qui est secret. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas y aller, nous, occidentaux ou colombiens non-Wayuu. Et là, l'urne est laissée à cet endroit-là. Et entre ces deux enterrements, c'est dangereux, parce que le mort peut venir vous troubler. Il faut faire attention. Mais une fois qu'on l'a porté là, alors ça y est, l'âme du mort, enfin l'esprit du mort part à Repira, qui est le lieu sacré, qui est pas un paradis, qui est du côté de la Voie lactée, par là-bas. Et là, on dit que les femmes, il y a des banquets énormes, et les femmes peuvent choisir tous les amants qu'elles veulent.
C'est-à-dire
à peu près exactement l'inverse de la. Voilà. Oui, tu voulais passer la vidéo de Clarina ?
Oui,
ouais, c'est le moment, je crois. C'est
bien. Donc là, c'est une petite vidéo, enfin, c'est un montage en fait, où vous allez justement voir de plus près Clarina. Bon, là, donc c'est en 2015, voilà.
Ouais.
Donc voilà Clarina, qui est donc la leader de la communauté.
Alors c'est une femme qui, en 2015, elle avait 35 ans. C'est une femme d'une vigueur assez incroyable, tout en muscles.
Tierra y del acaparamiento de la tierra y dice que esa representación.
Voilà, je demande à Clarina de me parler de son rapport à la terre.
Bueno, para nosotros el cuidado, el tema de tener de la tierra, es nuestra madre. La tierra es nuestra madre. ¿Por qué es nuestra madre? Para nosotros los indígenas, bueno, ella es nuestra madre porque cuando cogemos una semilla, lo instalamos en el suelo, o sea, la tierra, eso dura eso para germinar, sea una pastilla, sea un maíz, ella lo germina y va creciendo, a través de esa planta que es el sembrado de maíz, un frijol o una pastilla, una yuca, tenemos nuestro alimento. À notre famille.
Bien, tu arrêtes, que je traduis. Donc, Clarina a dit que la terre, c'est leur mère.
Pourquoi c'est leur mère ?
Pourquoi c'est leur mère ? Parce que on plante les semences, et les semences de haricots, de courges, de pastèques, de maïs, de melon, voilà, en gros, ce qu'on pourrait, et de haricots. Voilà, c'est ces six choses-là qu'on récolte à la saison des pluies. Et tout sort de terre en un mois, et donc c'est vraiment le miracle. Voilà.
Voilà pourquoi c'est
la mer. Alors, une petite indication, vous avez sûrement entendu parler de, maintenant on parle beaucoup de la Pachamama. La Pachamama, c'est une pure invention occidentale.
Non, la Pachamama, ça vient... Attention.
Oui, vas-y, rectifie.
Les Aymara, ça vient des populations andines.
Voilà.
Et comme actuellement, il y a beaucoup de luttes des communautés indigènes, aussi bien en Amérique du Nord contre le pipeline qu'en Amérique du Sud, ils ont tendance à se retrouver et à unifier quelque chose autour du terme de la Pachamama. Mais la Pachamama, elle est très bénéfique chez les Aymara, chez les peuples andins, alors que la terre-mère chez les Wayuu, elle n'est pas forcément très bénéfique. De ça.
Elle peut être maléfique.
Elle peut être très maléfique. Donc, voilà, c'est une extension. Même l'idée même de terre-mère n'existait pas vraiment chez les Wayuu. Hein. Bon, mais
Ils essaient de trouver. Enfin, voilà, ça fait une sorte.
Voilà, une chose importante, c'est que les cultures autochtones. Les cultures autochtones, petit à petit, s'adaptent aussi, pas seulement à ça, mais aussi au fait qu'il faut satisfaire la compréhension des Occidentaux. Et donc, se créer des images, des symboles, des concepts qui sont... On envoie à l'Occident, j'emploie le mot Occident dans son sens le plus large, hein, on envoie à l'Occident des concepts dont on sait que ça va être favorable pour nous et que ça peut rapporter gros. Mais c'est la même chose en Afrique.
Vous vouliez poser une question? Ah bon, d'accord.
Alors chez les Kogis et les Arhuacos, alors là, c'est les rois.
Ce sont les indigènes de la Sierra. Voilà, donc ça, c'est une plantation. Ça, c'est à la saison, après la saison des pluies.
Un petit troupeau de chèvres. Ce matin-là, la récolte a été lamentable. Des fois, c'est mieux.
Voilà, ça, par exemple, c'est une pêche.
Le poisson séché au soleil. De 10 000 litres.
Le rio qui a été gelé, le barrage dont je parlais. Ça, c'est une femme voyou qui découvre que l'eau, elle est là, en fait.
Peut-être. Ça, c'est une rochelaga où il y a la démission.
En la Guajira, las mujeres gestantes están muriendo, entre otras cosas, por tuberculosis endémica.
Si seguimos con la condición que estamos, la población indígena, la población guayú,
con el
paso de los años, tiende a desaparecer.
La Guajira.
El río Ranchería se lo robaron hace unos 30 años, poco a poco, y se lo van a seguir robando.
C'est les trains de charbon qui parcourent sur une voie privée qui appartient à la mine jusqu'au port au nord à Saint-Denis. Donc c'est 150 km de rail pour transporter le charbon.
Chaque jour, la mine fait sauter 200 tonnes de dynamite.
C'est vous qui les avez fumés, par incendie ?
Non, ça c'est pas vrai. On peut pas faire.
J'espérais que vous soyez en bas des cyprès.
Non, non, surtout on ne peut pas.
Mais non,
on n'a pas accès.
Mais il y a des films faits par la Cérébrale pour montrer combien ils sont forts, qu'ils sont forts, qu'ils sont forts, qu'ils sont forts.
Là, on va piquer des images.
Est-ce que ça crée des emplois ?
Non.
Les techniciens ingénieurs, beaucoup viennent d'ailleurs.
Même de l'étranger. Mais en ouvrier, mais, qui filme. C'est que des ouvriers très qualifiés.
Si, alors on connaît un conducteur de ces énormes camions, parce que le conducteur, il arrive à la moitié de voilà, et ça, c'est les camions qui arrosent les rangs, parce qu'on peut faire pour stabiliser les rangs par lesquels montent ces énormes camions. Ils puissent l'eau.
Je le traduirai après.
Las personas que en otras ciudades no hablan guayunaiki, pero somos uno mismo, somos humanos, por eso le mando este mensaje, que donde quiera que esté llegue este mensaje, ojalá sea escuchado y como líder que soy, este mensaje le mando de corazón para que se entere de los problemas que ha tenido Guayunaiki. Estamos
platicando
con él.
Domingo 16 de noviembre 2015.
C'est la maman de Carola, la femme de l'autorité naturelle.
Il faut vous expliquer les actions au-delà de l'école.
Attends, je vais d'abord traduire ce qu'elle dit.
Excusez-moi, mais Clarina, c'est qui par rapport à...
Alors, Clarina, c'est la leader naturelle de la Kachaka. C'est elle qui représente la communauté auprès de toutes les autorités, aussi bien colombiennes que Wayou. Et donc elle a été au lycée, elle sait lire, elle sait écrire, elle traduit pour le reste de la communauté. Quand on parle en espagnol, il y en a un certain nombre qui ne sont pas très à l'aise en espagnol, donc elle traduit en Wayunaki. Pour que...
Donc elle représente
elle... Oui, elle représente la communauté en fait. Alors, mais les décisions se font avec son père, qui est l'autorité, qui est le plus ancien.
Oui, la décision en fait, c'est l'autorité, c'est le père.
L'administration colombienne s'exprime de quelle façon ? L'administration centrale ?
Comment ça ?
Alors, les hôpitaux, par exemple, comment sont apportés les services ?
Ah, d'accord. Attendez, pardon. D'abord, je vais traduire l'appel de Clarena. C'est rapide. Elle dit, voilà, nous, on parle le Wayunaiki. Certains d'entre nous parlent aussi l'espagnol. Et puis, dans le monde, il y a d'autres langues. Alors, on est différents par nos langues, mais en fait, on est les mêmes êtres humains partout. Et donc, je fais appel pour qu'il y ait la reconnaissance que nous sommes tous frères et sœurs, de par le monde.
Et ensuite, elle dit, nous, la communauté Wayuu, on est abandonnés par le gouvernement colombien.
Voilà la réponse.
Et donc, elle demande de l'aide.
Alors, pour répondre à votre question, les services publics en Colombie, c'est évidemment pas le seul pays qui soit comme ça, mais c'est le degré presque zéro. Le service de santé, la médecine, est l'une des plus mauvaises au monde. Non
mais
pas que les médecins.
Médecin.
Oui,
médecin,
mais il faut être riche, il faut avoir de l'argent pour être soigné. Si on est pauvre, on est soit très mal soigné, soit pas du tout soigné. L'école, c'est encore quand même pour les pauvres, c'est encore quand même le degré très très bas au niveau pédagogique et en moyens matériels. Il n'y a pas de transport public, sauf à Bogota, Medellín et Cali, oui. Et Barranquilla. Ça n'existe pas, les transports publics. Il n'y a pas de train. Il y a eu des trains. Et puis, ils ont été liquidés petit à petit. Maintenant, il n'y a que des services d'autocar pour les pauvres et les classes moyennes, puis l'avion pour les riches. Que dire d'autre ? Les services publics, c'est terrible.
Alors, depuis la constitution de 1991 en Colombie, donc la Colombie a reconnu le territoire des sociétés indigènes. Simplement, la Colombie, l'État colombien reste propriétaire du sous-sol.
Comme ici.
Donc actuellement, avec la mise en place des accords de paix avec les FARC, il y a beaucoup d'endroits où de nouveau, il y a plein les Canadiens, enfin tout le monde veut venir prospecter parce qu'il y a effectivement énormément de richesses dans les Sierras, hein, en Colombie. Donc il y a cette superposition en fait pour les Wayuu de leur système traditionnel de loi, de fonctionnement, et ils appartiennent en même temps à la Colombie, donc ils sont aussi soumis à l'État colombien.
Alors qu'est-ce qu'on va faire là-bas, nous ? On est une toute petite association, on ne veut pas être une ONG, et on sait qu'en fin 2019, on arrêtera. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas créer de système de dépendance. Et on ne veut pas faire du néocolonialisme. On est là-bas maintenant pour des actions très précises. L'aide à l'école, l'aide aux pêcheurs, on a acheté avec eux. C'est-à-dire qu'on ne fait rien qui ne fasse d'abord l'objet d'une concertation avec la communauté, et d'une décision par la communauté. Et nous, ensuite, on applique la décision qui a été prise. Et donc, on a aussi fourni du matériel pour la pêche.
On a acheté un moteur pour la Lancha. Et là, dernièrement, ils nous ont demandé d'acheter du filet pour refaire des filets de pêche. Parce que le filet qu'on voit là, quand César...
C'est très fragile.
Ils sont très fragiles, c'est du plastique, c'est ce qu'on leur fournit. Et en fait, donc, on est allé dans un village spécial à 3 heures de route de là où ils sont pour acheter du filet qui est beaucoup plus solide. Et donc, César, le mari de Clarena que vous avez vu là, il est en train de construire un gros filet. Parce que le problème, c'est qu'avec la poussière du charbon à l'endroit où le charbon est débarqué pour être mis dans les grands tankers pour venir en Europe, en Chine et tout ça, il y a une poussière énorme. Et ça détruit les récifs coralliens. Donc il y a un problème pour la reproduction des poissons. Donc ils ont des pêches de moins en moins abondantes. Donc il faut qu'ils aillent de plus en plus loin. Mais le problème, c'est qu'il y a des courants très forts au large de la côte. Donc avec un moteur, parce que jusqu'à présent, ils y vont à la perche ou à la rame. Et donc avec le moteur, ils peuvent aller plus loin pour avoir une pêche qui soit plus abondante.
Et puis, maintenant, on est sur deux actions, enfin, une importante. pour laquelle on a demandé des subventionnements à l'agence de l'eau Adour-Garonne, à la région Occitanie et à Toulouse Métropole. En tout, on a réuni 86 000 euros de ces trois institutions qui nous subventionnent pour équiper, pour faire des équipements qui vont permettre d'avoir de l'eau dans la Rancheria de manière non pas permanente, mais presque. Donc, on est en plein dedans, là. C'est-à-dire que tous les toits des maisons sont équipés de gouttières qui aboutissent chacune à ces grands containers noirs qu'on a vus à un moment dans les voilà. Voilà, qui font entre 1000, 2000, 5000 litres de contenance. On rééquipe totalement la grande mare de manière à ce qu'elle s'assèche moins par l'évaporation. C'est-à-dire qu'on va tout autour, on va planter des manguiers et on va séparer la partie animale de la partie humaine. Parce que ça, c'est comme un grand 8, cette mare. Ça va permettre que l'une des boucles soit pour les animaux et l'autre boucle pour la baignade des gens. Et puis on a creusé aussi des citernes. On a creusé.
Faut dire. Pour tous les voyous, ce qu'ils veulent, c'est un puits avec de l'eau douce. Donc au départ, on était parti sur le puits. Et effectivement, avec la société avec laquelle on travaille, qui est la société Bogota, ils ont creusé deux puits. On espérait qu'il y ait une couche d'argile qui protégerait de l'eau douce. Mais malheureusement, l'eau qui est sortie était salée. Donc il y a l'eau salée à 5 mètres dans le sol. Donc les puits n'ont pas pu être réalisés et ils sont transformés en citernes pour récupérer l'eau de pluie avec un système de
bâches.
Oui, une espèce de bâche qui va drainer l'eau et qui va permettre de les remplir.
Ça va permettre ça d'assurer de l'eau douce, pas nécessairement potable, mais douce, sur presque la totalité de l'année, pour tous les besoins, non pas alimentaires humains, mais des animaux, des entretiens du corps,
la lessive,
et une petite agriculture familiale. Alors ça va être un bon prodigieux dans la santé des gens de cette rancheria. Et ça, c'est un projet qui se réalise sur 3 ans. On est actuellement à la moitié des équipements. Il nous reste encore 1 an et demi pour réaliser la deuxième moitié. C'est une entreprise avec laquelle on travaille, une petite entreprise, avec laquelle on est dans un accord parfait. Voilà. Et ça, on sait que ça va être terminé en 2019. On va y revenir après. Et l'autre projet, l'autre action avec laquelle on est, on ne sait pas si elle va se continuer. Elle a démarré très fort, il n'y a jamais eu de théâtre à La Guajira, dans ce territoire. Pour les Colombiens comme pour les Wayous. Les Wayous, ils n'en ont pas besoin du théâtre à la limite. Et les Colombiens, ils avaient une vague idée de ce que peut être le théâtre. Comme c'est mon métier, j'ai apporté mes compétences, ça ne coûte pas cher. Et pendant une année, on a fait de la formation d'acteurs et de l'initiation à qu'est-ce que c'est que le théâtre. On a fait 3 stages de 2 semaines à chaque fois. Un collectif s'est formé de jeunes et j'ai écrit un texte exprès pour là-bas, un texte dramatique. Et il a été monté par ces jeunes, j'en ai fait la mise en scène. Et il a été joué là-bas. Maintenant, ils m'ont fait une commande d'écrire un texte sur le fait qu'il n'y a pas d'enseignement d'histoire en Colombie depuis 1991. De même de la philosophie, de la sociologie, de la géographie, sauf dans les universités des 3 grandes villes, Bogota, Medellín et Cali. Mais ailleurs, rien de ces disciplines. Et on va y revenir après. Voilà. Et donc j'ai écrit ce texte. Je vais l'envoyer cette semaine. Parce qu'il fallait le traduire, que je passe du français à l'espagnol. Voilà.
Ça fait. C'est ce qui est frappant et admirable dans l'association. c'est partant de l'école, puis la pêche, donc l'agriculture en fait, l'eau, les photos sont vraiment indispensables. Enfin, surtout quand on comprend cette mine de charbon à ciel ouvert pour laquelle on a fait un barrage, non pas pour alimenter le village, mais pour que...
C'est-à-dire à l'origine, pour ce barrage, il va y avoir des aqueducs construits pour amener l'eau dans les diverses villes.
Ça, c'est ce qu'ils ont dû promettre.
Et la société qui était chargée de ça, elle a fait faillite, on ne sait plus où est l'argent.
Ça, c'est classique. Ça a été promis aux populations locales
pour
qu'elles acceptent. Enfin, plus ou moins, mais enfin, comme si elles avaient le choix. Elles n'ont pas le choix, en fait. Et puis la dimension culturelle.
Est-ce que vous avez des choses, peut-être des choses que vous connaissez, que vous avez envie d'apporter dans tout ce qu'on vient de dire, parce que là on fait vraiment du, enfin, on va vite quoi.
Ce qu'elle a fait compris, enfin, le fait que vous êtes synthétique, votre présentation, elle est quand même
complète. Oui. Vous avez des commentaires ou des questions ou des interrogations?
On n'a peut-être pas mentionné la question du tourisme.
Oui.
Du fait qu'il y a vraiment ces tours-là, quasi, enfin, du moins quand on peut visiter cette région, vraiment c'est une des plongées comme telle, quasi unique moyen de s'y rendre.
Est-ce que tu y es allé?
Ben, et alors,
t'as fait les flamants roses?
Non, j'ai compris ça.
T'es allé où?
Ouais.
C'est très beau.
C'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui m'a mise. Bon, on m'avait vraiment briefé avant de partir en Bordeaux. On m'avait dit bon, tu verras quand tu vas te trouver dans la Guadeloupe, si tu vas par là-bas. Surtout ne prends pas un tour, tu vas voir comment tu vas pas te retrouver là-dedans. Et je me suis retrouvée là-bas. Et c'est vrai que bon, la question de l'accessibilité, donc c'est des points. Il y a en fait donc dans la Guadeloupe, il y a des points comme le mentionnait Claude. Touristique, centre des pôles, mais comment on trouve ça dans beaucoup de pays finalement, les pôles touristiques centraux. Et c'est vrai que c'était difficilement desservi autrement que par les tours, puisque donc il faut des 4x4 pour traverser sous les airs, connaître un petit peu les différents points.
Oui, il n'y a pas de route.
Hein, c'est à la trace, quoi. La trace des autres qui sont passés par l'avant, bref. Bon, du coup, au bout de quelques jours à Riohacha, voyant que je galère un peu à rencontrer des gens pour essayer d'aller un peu plus loin, je me dis, bon, allez, c'est bon, j'ai décidé de finir par partir en tour. Oui, l'expérience plutôt terrorisante, mais on va pas entrer dans les détails, mais du coup, j'ai été très choquée par ce truc, bon, par plein de trucs. Déjà, les enfants qui font des espèces de péages comme ça, improvisés avec une ficelle, les voitures qui s'arrêtent et qui leur donnent des bonbons ou des galletas, des biscuits, quoi. Ça pose beaucoup. Il y a tellement de questions, et puis cet inconfort qu'on ressent à être là dans cette espèce de 4x4 surclimatisé avec les Bogotanais qui viennent passer les petites vacances de luxe par là, petite excursion, et aucun contact entre Wailou et touristes. Et puis les touristes donc, qui se retrouvent comme ça durant le séjour, entre 1 et 7 jours, dans les différents points pour aller se baigner. C'est tellement, je sais pas, il y a un décalage tellement, je suis rentrée de là, je crois que j'ai passé mes, voilà, enfin franchement 3 jours en mode, mais je culpabilisais énormément d'avoir fait ce truc, et en même temps je me disais, mais c'est instructif, quelque part il fallait le faire aussi pour voir cette partie-là de la réalité, que j'aurais peut-être pas saisi si je l'avais fait autrement, enfin bon bref, mais c'est une drôle de situation, quoi. Et j'ai pas trouvé ça... aussi marquant dans notre zone de la Colombie, enfin, c'est là où ça m'est apparu le plus flagrant, le plus important de loin.
Oui.
Mais tu ne peux pas y aller autrement.
Qu'est-ce que tu as fait ?
Non, là, parce qu'il y a la basse Guarera, la moyenne Guarera, donc Riohacha c'est la moyenne Guarera, et pour aller dans la haute Guarera, donc celle du nord qui est très désertique, on traverse les territoires Wailou, mais il faut dire que les quelques routes goudronnées qui existent sont payantes. Route à 2 voies dans toute la Colombie, dans la Guarera, jusqu'à Riohacha, il y a des routes, elles sont payantes. Et on est sur leur territoire. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils appliquent le même principe. On va faire payer la traversée du territoire. Donc ils tendent des cordes. Bon, il y a la piste, hein, on ne peut pas tellement rouler ailleurs que sur la piste. Donc ils tendent une corde pour arrêter les voitures et ils demandent. On leur donne quelque chose. Alors, des fois c'est des enfants, des fois c'est des femmes qui essaient de vendre des mochilas, des sacs là, d'autres fois, une fois nous, c'était un gars, hein, parce qu'on a fait le même circuit, hein, on ne peut pas faire autrement si on veut aller au nord. Et donc les chauffeurs de taxi, ils ont effectivement toujours ces bricoles à donner comme ça, donc des bonbons, des trucs sucrés qui sont très mauvais pour le gamin. Et à un moment, nous, c'est une gamine qui demandait de l'eau.
Oui, nous, c'est de l'eau.
Et le taxi s'est pas arrêté. Ben, je veux dire que j'étais mal. Je lui ai dit, arrêtez-vous, on va leur donner nos gourdes. Non, il s'est pas arrêté.
Mais ça se comprend en même temps qu'il ne s'arrête pas. Parce que ces gars-là, c'est leur gagne-pain. Ils font ça tous les jours. Avec leur 4x4. Alors, ils emmènent, ils bourrent ça de touristes. Il n'y a pas énormément de touristes quand même qui montent jusqu'au nord. Hein. Et puis, il faut filer. Et puis, ils en ont marre au bout d'un moment d'être arrêtés en permanence, de s'arrêter parce qu'il y a un gosse qui tend une petite ficelle. Alors, ils foncent pour que le gamin lâche la ficelle. C'est des rapports. Et puis, un certain nombre de chauffeurs sont voyous eux-mêmes. Hein.
Alors, moi, j'ai vu plus, enfin, en tout cas, dans le tour que j'étais, l'effet contraire, mais qui est tout aussi pervers, c'est-à-dire qu'en fait, le chauffeur s'arrêtait pour montrer aux personnes qui étaient dans la voiture, regardez les bonnes actions qu'on fait, oh, on est en train de leur distribuer des gâteaux, mais qu'est-ce qu'on est gentil. Et enfin, il y avait ce truc-là, quoi, plus, et au contraire, qui s'arrêtait systématiquement pour distribuer des sucres.
Parce que ce sont des réalités qui se superposent, extrêmement contradictoires. Moi, j'avoue que je n'en veux ni aux Colombiens, ni aux touristes, ni aux voyous. C'est des mondes qui se superposent et qui en même temps sont obligés. Alors, ceux qui rencontrent le plus, c'est les voyous. Parce qu'eux, ils font du troc, ils essaient d'obtenir un truc. Donc, ils y vont. Et le fait qu'ils y aillent, c'est une bonne chose. Parce qu'ils arrivent à prendre des choses. Et c'est une culture très vivante, parce que c'est une culture de guerriers et de pillards, et qu'ils arrivent à ne pas mourir. C'est quand même l'un des peuples indigènes qui ne crève pas actuellement en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Je suis allé chez les Tarahumaras au Mexique, les fameux Tarahumaras dont on parle, Arto, etc., le prodigieux, c'est affreux, affreux. Tous les hommes sont bouffés par l'alcool, parce que les Américains leur filent des bouteilles de whisky. Les mecs sont imbibés d'alcool, c'est affreux. Bon, et les Tarahumaras sont en train de disparaître et de mourir par l'alcool. Les voyous, non, ils piquent. Ils se battent.
C'est une société qui s'est adaptée. Aux Espagnols, ils ont pris l'élevage. Avant, ils étaient simplement chasseurs-cueilleurs. Et il y avait beaucoup plus enfin, le territoire n'était pas épuisé comme il est maintenant. Ils ont pris l'élevage. Ils faisaient l'échange avec les
pirates.
Les pirates qui venaient sur leur côte se ravitailler. Donc, ils ont eu des armes par les pirates. Ils ont eu des chevaux. Et donc, c'est une société qui, à la fois, est très, très forte, très structurée. Et qui en même temps s'adapte.
Arrive malgré tout à s'adapter. Et ils ne sont pas en voie de disparition. Pas du tout. Et leur langue aussi se transforme.
Oui, leur langue maintenant est écrite. Il y a des dictionnaires espagnol wayunaki, wayunaki anglais.
Et la culture bouge. Les cultures, c'est vivant. Si ça reste folklorique, ça meurt. Bah là, non. C'est une culture qui évolue, qui se transforme, qui s'adaptent. C'est leur richesse. Hein. Moi, je trouve que c'est un exemple. C'est des exemples de capacité. La pauvreté n'est pas une chose affreuse. La pauvreté, on la vit très bien. C'est la misère qui est affreuse. Et eux, ils arrivent petit à petit à établir un rapport dans la pauvreté et à avoir moins de misère. Ça crée beau combat, je trouve.
Celle qui fait l'école, elle est reconnue comment par l'État colombien ?
L'enseignant ?
Ouais.
Ils sont très très mal payés. Ils sont peu formés.
Ils sont payés au contrat annuel et souvent il y a 6 mois de retard. Donc,
ils ont un concours, ils font une
formation,
ils font
Enfin, c'est pas un concours.
Non.
Pardon.
Pour ce qui est l'élémentaire, hein, l'équivalent donc jusqu'à l'école primaire, ils sont recrutés, justement c'est le problème, c'est que des fois ils sont recrutés avec des niveaux quand même pas très, très élevés, comme c'était le cas du premier qu'on avait rencontré.
Ça s'améliore.
Là actuellement dans la Kachaka, bon, il y a un des jeunes qui est à l'université et qui a été recruté, qui a pris en main la classe, qui a été recruté comme enseignant et qui en même temps poursuit ses études à l'université. Donc il y a une amélioration progressive parce qu'il y a de plus en plus quand même de jeunes qui vont au moins à l'université chez les Wali quand même. Donc le niveau là il monte, mais il faut voir aussi l'instituteur qui était là, on en a connu trois en fait. Le premier qui était une catastrophe, le second qui était pas mal.
Ah oui.
Et maintenant, donc, ce jeune
qui est vraiment bien.
Donc, pour le second, quand on a apporté les livres, on a dit aussi, parce que le maître lui-même n'avait aucun livre. Enfin, moi, j'étais enseignante, on a des livres du maître pour suivre une pédagogie. Et donc, on est allé avec lui dans une librairie à Rioacha, et il n'osait pas, il trouvait que c'était énorme le prix des livres, parce qu'effectivement, en Colombie, le livre, c'est cher. Et il n'osait pas nous dire bah, « je voudrais celui-là, je voudrais celui-là, je voudrais celui-là » parce que pour lui, ça représentait énormément d'argent d'acheter des livres. Donc, partant de ça, bah, le niveau pédagogique est souvent…
Clarena était avec nous, la leader, et c'est elle qui le poussait à dire « vas-y, choisis ça, ils le paieront ». Et là, maintenant, le jeune, il a 20, 22, 23 ans, l'instit, il est vraiment formé. Il est Bac plus 3.
Oui, il a une formation pédagogique. Là.
Et il est d'une... Il a envie de faire plein de choses. Il est ouvert à plein de choses. On va peut-être terminer rapidement avec quand même cette question de... Qu'est-ce que ça fait quand on revient, quand on... Tu en as un peu parlé, toi, disant ton rapport au tourisme. Oui, mais en même temps, le tourisme, c'est une richesse pour la Colombie. C'est un moyen de... Voilà. Bah, pas seulement pour les riches, de plus en plus pour d'autres. Pour les petites classes moyennes, etc. Parce que tu vas manger dans les petits restos, tu achètes dans les petites épiceries. Ça fait vivre.
Montre le temps, Chila, parce que tu l'as cité.
Ah oui, mais elle n'est pas
ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien.
C'est entièrement fait à la main au crochet numéro 1. Pour les dames qui connaissent, les messieurs qui connaissent le crochet.
Oui.
Si je peux préciser quelque chose, c'est pas tant que ça le tourisme que je vais faire du bois, sinon le fait que dans ce cas en particulier, il n'y a aucune rencontre qui se crée, en fait.
D'accord.
Et que justement, c'est un croisement, comme tu disais, croisement de réalité, parallèle.
Mais
parce
c'est.
Que, attends, tu ne peux pas rentrer dans une rancheria de ta propre initiative. Nous, on a été amenés par un ami de la rancheria qui était. Bon, voilà, parce qu'il faut l'autorisation de l'autorité. Et au début, Clarena, là, quand on voit Claude qui marche dans le sable avec le sac de Clarena, elle disait : vous craignez rien, vous êtes avec moi. Mais moi, c'est la première fois, donc ça fait quoi ? 4 ans, hein, 5 ans ? Que j'ai traversé, que je suis remontée un arroyo qui était salé pour voir jusqu'où il était salé dans le cadre du projet de l'eau, que je suis allée sur d'autres territoires.
Sinon, tu ne peux pas.
Et je me disais, si je croise
à pied,
quelqu'un,
tu ne peux pas.
Je ne parlais pas nécessairement d'aller dans une rancherie, hein, c'est pas ce qu'on a l'esprit. Voilà, enfin, la rencontre a pu se faire autrement qu'en allant. Hein.
Bon, mais aussi, il y a le fait que tu étais confrontée à. En Colombie, le racisme est très fort. Ça n'aide pas le touriste à rencontrer les autres. Les Colombiens sont très racistes vis-à-vis des indigènes. J'aime beaucoup les Colombiens, mais bon, ils sont racistes vis-à-vis des indigènes. Et alors, pour parler de la difficulté, ce qui est douloureux quand on revient. Enfin, je devrais dire Liliane,
on en a
parlé cet après-midi encore. Ce qui est douloureux quand on revient, quand nous revenons, c'est d'une part là-bas, la France, pour beaucoup de Colombiens, c'est la terre des libertés et des droits de l'homme. Et à chaque fois qu'on revient, ça décline. Encore un peu plus. Et c'est très difficile de leur expliquer que ça décline. Parce que c'est tellement encore mieux que chez eux. Encore que le président actuel, Santos, c'est un libéral, c'est un type intelligent, c'est un type qui aime son pays. Donc il fait progresser beaucoup de choses. Ne serait-ce que le processus de paix. C'est énorme. Mais nous, on arrive ici, on voit un déclin par rapport aux libertés publiques. Et puis, ce qu'on ressent très fort dans les... quand je vais à Auchan, au retour, quand je me balade dans la rue, c'est j'ai le sentiment que la société française se replie. Que les gens se replient. C'est-à-dire que ça se protège. Et je ressens très fortement en France, à chaque fois que je reviens, d'être dans une société où je suis sous contrôle. C'est-à-dire je suis contrôlé. Les caméras partout. Quand on revient de 5 ou 6 mois là-bas, c'est étonnant comment on vit la ville, soudain, en France. On la vit comme un milieu inquiétant. Voilà. Alors que là-bas, il y a des villes monstrueuses.
Pas à Bogota.
Non, parce qu'il n'y a pas de caméra dans les rues. Je ne dis pas que c'est bien Bogota, c'est aussi une ville monstrueuse. Mm-hmm. Mais ce n'est pas la même chose. Et ce qui fait aussi ce qui nous est, qui nous inquiète beaucoup, c'est là-bas, quand on est en Colombie, on vit dans un pays où il n'y a pas de service public, et de voir ici la dégradation du service public.
Par la privatisation. Parce qu'on voit ce que ça donne à une société totalement libérale, où tout appartient au privé, les universités, les hôpitaux, les systèmes de circulation, de transport. Et franchement, c'est...
Je voudrais presque terminer en vous lisant un tout petit texte que j'ai trouvé aujourd'hui dans Facebook. Par Facebook. C'est une publicité à laquelle est associé le ministère de la Culture en France. Je lis le texte, je ne fais pas de commentaire. Les journées du management culturel. Un temps de rencontre qui répond de façon concrète aux nouveaux enjeux des managers de la culture. Zoom sur les nouveautés de cette troisième édition. Creatis propose une sélection des startups innovantes à découvrir impérativement. Pour cette troisième édition des journées du management culturel, nous vous proposons un espace démo de projets innovants. En effet, l'incubateur des startups culturelles Creatis à réaliser une sélection d'entreprises et de projets qui permettent aux professionnels de la culture de faciliter la vie de leur public, de mieux les connaître et ainsi répondre à leurs usages. De la médiation 2.0 à la réalité virtuelle, en passant par des outils de marketing et de fidélisation adaptés, les solutions proposées par ces entrepreneurs sont autant de nouvelles cordes à l'arc des médiateurs, community managers, responsables communication et autres professionnels de la culture. Des experts se mobilisent pour répondre à vos questions sur rendez-vous. Voilà où on en est. Voilà où, non mais je crois que c'est très important. À un moment où les théâtres privés demandent les subventions du public. C'est-à-dire les théâtres privés en ce moment font toute une démarche de lobby auprès du ministère de la Culture pour que les subventions accordées au public leur soient aussi accordées. Alors qu'ils sont déjà subventionnés par la billetterie. Par le fonds d'aide des théâtres privés. C'est-à-dire qu'on est actuellement on est en train de défaire actuellement tout le tissu culturel. Disparition, par exemple, disparition des scènes de musiques actuelles. Elles ne sont plus subventionnées. Disparition de beaucoup de festivals. Disparition de compagnies de théâtre, de danse et de théâtre de rue. Mais c'est comme c'est mon métier, je suis très informé. Ouais. C'est hallucinant en ce moment ce que c'est en train de se dégrader. au niveau de la culture et des arts. Regardez autour de vous, informez-vous, je crois que c'est important. Excusez-moi,
ça me... On sent la passion.
Voilà. Eh bien, voilà, ce qui fait une richesse de, la richesse d'une population, d'un bien commun, peut disparaître. On n'est pas à l'abri. Et on voit ce que ça peut donner quand on est en Colombie.